J'ai oublié tantôt deux petites annonces pour deux ministères en particulier. Ce soir, le Club de l'Arche recommence. Alors, si vous êtes une jeune famille, vous avez des enfants qui sont d'âge primaire, ben vous êtes bienvenus à les apporter. Il y aura un spécial justement ce soir pour commencer le Club de l'Arche avec une chasse au trésor, je pense, qui a été préparée. Et aussi, une autre annonce que j'oubliais pour samedi prochain, il y a l'atelier du Centre Emmanuel qui commence pour les familles. Et puis, deux choses. Premièrement, si vous n'avez pas été inscrit, puis c'est quelque chose qui vous intéresse, il n'est pas trop tard. Et aussi, c'est possible pour vous, il y aura des jeux gonflables qui seront là pour les enfants, puisque c'est vraiment une activité familiale. Il y aura des ateliers pour les enfants et pour les parents. Et il y aura, dans certaines occasions, même des périodes de pause pour les enfants, pour les jeux gonflables. Si vous voulez arriver à 9 heures, alors les enfants pourront participer aux activités qui seront là. Puis à 10 heures, les ateliers vont commencer. C'est bien ça, Sonia? OK. Alors, ça, c'est pour samedi prochain avec le Centre Emmanuel et ce soir pour le Club de l'Arche. Ce matin, partie numéro 2 de la trilogie de Philémon. Certaines leçons sont dures à assimiler et j'en sais quelque chose. On m'appelait autrefois Saul de Tarse. J'avais plus que la tête dure, mais Dieu m'attendait. Ces chrétiens, je les détestais. Ce Jésus qui avait était proclamé où on parlait de sa résurrection, j'aimais pas son message, mais Dieu m'attendait. Comme Dieu attendait Onésime, que j'ai eu l'occasion moi aussi de rencontrer. Dieu, dans sa grâce, m'attendait à une croisée de chemin. En fait, littéralement, il m'attendait dans le chemin. Il s'est révélé à moi et Dieu est venu me sauver. Dieu, dans sa grâce, m'a même plus que sauvé, il m'a établi ministre de son message, de l'Évangile. À travers certaines circonstances, je me suis retrouvé en prison à cause de ce message que je voulais proclamer. Et en prison, comme je disais tantôt, j'ai rencontré cet Onésime qui était en fuite de ses maîtres, qui s'était sauvé. Et j'ai saisi l'occasion de lui présenter ce que lui aussi avait besoin d'entendre de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'était la leçon que je voulais lui enseigner. Onésime, Christ est mort pour toi. Il veut t'affranchir de tes péchés. Et Dieu me fait le privilège de le conduire au Seigneur. Dieu l'attendait. Il a donné sa vie au Seigneur et on a commencé à tisser une relation, moi et lui, particulière, même en prison. Vivre en homme libre, intéressant, mais pas si évident. Certaines leçons sont difficiles à assimiler. Et celle-là en était une difficile pour Onésime. Onésime était un esclave, s'était sauvé de chez ses maîtres. Peut-être pour faire sa propre vie, prendre sa vie en maître, pour être son propre maître, être libre, il a rencontré que la liberté qu'il pouvait recevoir, c'était Dieu qui donnait cette liberté ultime de ses péchés. Mais maintenant qu'il est un homme libre, libéré de ses péchés, qu'il est un disciple de Christ, il doit se comporter comme tel. Il doit vivre comme tel. Vivre en homme libre. J'ai rapidement apprécié la présence d'Onésime. Il a commencé à vivre à la hauteur de son nom. Onésime, qui veut dire utile. Il a commencé à vivre à la hauteur de son nom. Vous savez, je suis relativement limité à cause de mon handicap, hein? Alors Onésime était d'un grand aide. Mais il y avait une question qui restait à régler. Comment tu vas passer le reste de ta vie, Onésime? Si présentement tu es fugitif, si tu es un disciple de Christ, peux-tu demeurer dans cet état-là? Tu te dis maintenant être un disciple, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête que tu devrais peut-être régler? Je me souviens de sa question encore. J'étais jeune croyant, puis j'étais en train de le former pour devenir un disciple. Oui, mais si Dieu veut mon bien, est-ce qu'il veut que je sacrifie autant? Est-ce qu'il veut vraiment que j'affronte mon passé comme ça? Tu sais, Onésime, Seigneur, avant de monter, a dit, « Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Seigneur Jésus. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. » Onésime, si je te disais pas que tu as à obéir au Seigneur, si tu n'obéissais pas au Seigneur à ce qu'il te demande, tu serais un disciple qui pratique malheureusement encore l'esclavage. Vis en homme libre. Pour régler cette question-là, et pour amener Onésime à réfléchir un peu plus loin, j'ai écrit une lettre. Je vous invite à en prendre connaissance avec moi. Philémon, chapitre 1. Il n'y a pas de chapitre. On va commencer au verset 1. Voici le contexte qu'on a avec Onésime. Philémon, qui est le maître d'Onésime, on a vu dans la première partie de la trilogie, et Paul. Paul qui a eu l'occasion de conduire Philémon, Onésime, au Seigneur. Et Paul va écrire une lettre à Philémon, qu'il va envoyer par Tychique, mais aussi par Philémon. Aussi par Onésime. Excusez, je vous ai tout mêlé dans les personnages. Si tu ne suis pas Justin, tu demanderas à ta femme. OK, lisons Philémon ensemble. Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit une lettre à Philémon. Philémon est un homme, on imagine, bien nanti. Il a une maison suffisamment grande à Colosse où il peut accueillir les chrétiens de la ville de Colosse dans sa maison qui constitue, en fait, l'assemblée de Colosse, les Colossiens. Et Paul écrit à Philémon, écrit à son épouse, Apphia, et Archippe, qui est le compagnon de combat qu'on voit dans Colossiens, qui est un homme qui participe au ministère. Alors, ils sont dans sa maison. Verset 4. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui et une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai. pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voici la lettre que Paul a écrite à Philémon pour Onésime. Cette lettre que Dieu a inspirée par son esprit, que l'on a encore aujourd'hui, et qui s'adresse encore à nous aujourd'hui pour qu'on puisse en tirer profit, comprendre la volonté de Dieu pour nos vies et la mettre en pratique. Vivre en homme libre. Vivre en homme libre. Prenons un temps pour prier, que Dieu nous conduise dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. On vient de lire cette lettre, Seigneur, que tu as dirigée par la plume de Paul qui était envoyée à Philémon. Dieu t'a permis que cette lettre, on puisse la lire encore aujourd'hui parce que tu as des leçons à nous enseigner. Tu as des choses à nous dire encore à nous aujourd'hui. On veut prendre le temps de s'arrêter, Dieu, d'ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, que chacun d'entre nous, tu viennes mettre le doigt dans nos vies, là où on en a besoin. Viens révéler, Seigneur, ce que tu veux que l'on change. Viens nous montrer comment est-ce qu'on peut apprendre à te connaître encore plus, apprécier encore plus ta présence parmi nous, en nous, et marcher aussi avec toi fidèlement. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Tome 1. La liberté est bonne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, la liberté est bonne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un membre cassé? Vous êtes cassé un bras ou une jambe, ça m'est arrivé à quelques reprises. Et pendant un temps, on a le membre en question qui est cassé, qui est pris, qu'on ne peut plus bouger. Et là, une des premières choses qui se produit souvent, quand on a le plâtre, c'est que ça pique. Puis on n'a plus la liberté de se gratter comme avant. On perd la liberté de nos mouvements, on perd beaucoup de choses. Et quand que ce plâtre-là est enlevé, tout à coup, c'est libéré. Enfin, ça fait du bien, ça respire. Mon beau-père, à un moment donné, me racontait qu'il a eu un accident à un pied. Il a dû avoir une greffe de peau en dessous du pied. Il était adolescent à ce moment-là. Et puis, pour que la greffe de peau puisse bien reprendre, ils ont dû fixer sa jambe, son pied. Évidemment, ils ont enlevé le soulier, là, vous comprenez. Hein? Et puis là, ils l'ont fixé sur la jambe pour que la peau de la cuisse avec le dessous de son pied, ça puisse refaire une peau qui est saine. Mais pendant plus d'un mois, il a été fixé comme ça à un lit, la jambe croisée, pour que la peau puisse reprendre. Il avait perdu toute liberté de mouvement et c'était difficile, on imagine, pour un adolescent. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement dans les nouvelles, 33 hommes au Chili qui sont pris à l'heure où on se parle dans une mine à 700 mètres de profondeur. Plus moyen de sortir de là. Ils ont réussi à creuser un petit trou pour voir s'ils sont vivants. Ils ont vu qu'ils sont vivants. Ils ont réussi à leur envoyer quelques petits articles pour passer le temps, des jeux de cartes, des MP3, des petites lumières. Et puis, pour qu'ils puissent, pendant un temps, se faire un confort. Et puis, de ce que j'ai entendu dans les nouvelles, ils espèrent pouvoir les sortir peut-être mi-septembre, mais j'ai même entendu dire que ça peut prendre 3 mois. C'est incroyable. Mais imaginez ces hommes-là quand ils vont sortir du trou. La liberté qu'ils vont trouver. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand Dieu nous a sortis de nos péchés? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand Dieu nous a sortis des ténèbres, nous a sortis du trou pour nous mettre à la lumière puis qu'on puisse vivre la liberté qu'il nous a donnée? La liberté est bonne, elle est agréable. Et c'est ce que Onésime avait pu goûter en donnant sa vie au Seigneur. La perspective d'Onésime avait changé. S'il était un homme qui regardait son confort peut-être chez ses maîtres en disant « Moi aussi, je vais être maître de moi-même. » Puis que dans sa propre perspective limitée, Il s'est dit, je vais voler mes maîtres, je vais me sauver. En prison, en rencontrant Paul, il a découvert une perspective éternelle. Il était non seulement esclave sur la terre, mais il était esclave de ses péchés. Et en ayant cette nouvelle perspective-là de l'éternité, de ses péchés dans sa vie, ben il a pu vivre la liberté. Il a pu goûter le pardon de ses péchés parce qu'il s'est repenti. Il a placé sa foi en Jésus-Christ. Il a été purifié, sanctifié, régénéré, transformé, devenu participant, célébrant de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans vos vies et dans ma vie au moment qu'il nous a sauvés. La liberté, elle est bonne. Libérer de nos péchés, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On vient de lire dans la lettre de Philémon que Onésime est devenu même utile à Paul. Il est devenu précieux pour Paul. Ils ont pu tisser un lien. On voit le cœur de Paul pour Onésime qui a vraiment un attachement profond pour cet homme-là. Onésime, dans cette nouvelle relation qu'il a découvert en Jésus-Christ, a découvert des frères et des sœurs. A découvert la pratique même de plusieurs nouvelles vertus chrétiennes. Le service, l'entraide, la bienfaisance, l'amour, la communion, la libéralité, la paix, la joie. Les Écritures nous disent que on était perdus. Chacun suivait sa propre voie. Mais quand Dieu nous a sauvés, il est devenu le berger de nos âmes. Il est devenu celui qui conduit nos vies. Ça, c'est la liberté que l'on trouve dans la personne de Jésus-Christ. On n'a plus à se soucier de dire, je vais mener ma vie comme je l'entends, comme ce que je pense qui est bon. La liberté que Dieu me donne, qui veut que je vive en homme libre, c'est de vivre le chemin que le berger indique pour ma vie. Recevoir un nouvel espoir dans nos vies nous donne une belle liberté d'esprit. Qu'est-ce qui se passe avec vous quand vous mourrez? Quelle est votre espérance? À quoi vous espérez pour demain? Quelle est votre perspective de la vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on espère uniquement pour demain, certains éléments, ou est-ce qu'on a une perspective éternelle, de vie éternelle? Philémon, regardez au verset 4. Philémon lui-même connaissait le Seigneur et vivait en homme libre. Paul lui-même rend témoignage du caractère chrétien de Philémon. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Paul était concerné par ce que Philémon vivait, par le type d'homme qu'il était, un homme qui était caractérisé par le caractère de Christ, qui ressemblait à son maître. Et au verset 5, il dit, « Parce que je suis informé de la foi que tu as eue, que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Philémon n'était pas un homme qui avait simplement la prétention de dire, « Moi, je suis un chrétien. » Mais qui vivait pas comme un chrétien. Il vivait réellement sa foi. Regardez le verset 6. Je lui demande, en parlant de Paul, il demande à Dieu, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. La foi de Paul, de Philémon, était participante à la cause de Christ. Il était un homme qui se disait chrétien, mais qui vivait comme un chrétien, qui vivait en homme libéré par Jésus-Christ. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu pour toi, Philémon, parce que tu es un homme qui non seulement il dit qu'il appartient au Seigneur Jésus, qui dit qu'il a la foi, mais qui vit la foi aussi. Ça, c'était le caractère de Philémon. Un homme qui pratiquait l'hospitalité, comme on disait, il accueillait les chrétiens dans sa maison pour célébrer chaque dimanche. Verset 7, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Onésime a découvert une nouvelle vie. Philémon a découvert une nouvelle vie, lui aussi, en Jésus-Christ. Les deux ont découvert que la liberté, elle est bonne. Ayant été libérés de leurs péchés, libérés du passé, ils ont l'occasion maintenant de la mettre en pratique, de vivre semblable à Jésus-Christ. Pour nos vies, nous, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Goûtez-vous que la liberté en Jésus-Christ est bonne? Goûtez-vous que la liberté est bonne? Est-ce qu'on réalise que Dieu nous a sortis de notre trou, faisant référence aux mineurs qui vont bientôt sortir, là, que Dieu nous a sortis de où ce qu'on était pris, et que la liberté, elle est bonne, que de vivre en homme libre, c'est bon, d'avoir une foi authentique, une foi vivante. Galates 2:20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est la liberté que Dieu veut que chaque croyant vive. Je ne vis plus ma vie à ma façon en la prenant dans mes mains parce que j'ai crucifié ma vie avec Christ. Mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. À chaque jour que l'on vit notre relation avec Jésus-Christ, c'est parce qu'on a abandonné nos vies à lui. Que la liberté en lui qu'il nous donne, la façon qu'il nous conduit, ce que Dieu veut pour ta vie, c'est bon. La liberté est bonne. Tombe 1, la liberté est bonne. Tombe 2, parfois l'esclavage est tentant. Tantôt, je vous parlais de mon beau-père qui s'était fait il avait reçu une greffe de peau en dessous du pied. Et puis, après plus d'un mois, ils ont séparé le pied de la jambe, évidemment, pour retrouver son état normal. Et puis, là, il était couché dans son lit. Et puis, après un certain temps, il y a eu un réflexe. Savez-vous c'était quoi? Il était couché, là, les deux pieds, là, son pied était déplié. Puis, tout à coup, sa jambe est revenue. Puis il s'est replacé comme dans son état où il était pris. Puis là, il s'est dit, hey, « c'est pas vrai, là. Attends un petit peu, là. J'étais de même pendant plus d'un mois. Tu vas reprendre ta position normale. » Il avait développé pendant plus d'un mois un certain confort étant resté comme ça, figé comme ça. Puis naturellement, c'est comme si son corps voulait reprendre cette position-là. Mais il faut pas. Il faut pas s'il veut continuer de marcher normalement. La tentation de revenir à un certain confort qu'on avait avant, il faut l'empêcher si on veut vivre en homme libre. Parce qu'on ne veut pas revenir à l'esclavage. Bien souvent, le sort des esclaves au temps de l'Empire romain est meilleur que celui des hommes libres. La nourriture, le vêtement et un abri leur sont assurés. Tandis que les hommes libres qui sont pauvres dorment souvent dans les rues ou dans les abris de fortune. Les hommes libres n'ont aucune sécurité d'emploi et peuvent perdre leurs moyens de subsistance en temps de crise économique. Bien des esclaves mangent et sont vêtus aussi bien que les hommes libres. On regarde la condition des esclaves et on dit, il semble qu'ils ont de l'air bien. Un homme libre du temps, même au temps de l'Empire romain, aurait pu dire, il semble que je serais peut-être mieux esclave. Mais on dit ça, puis ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui veut perdre son statut d'homme libre. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même si la tentation est forte, on ne veut pas revenir à la tentation de vivre l'esclavage comme c'était avant. Certains choix sont difficiles à faire. Tournez avec moi, gardez votre doigt dans Philémon, puis tournez juste quelques pages plus loin dans Hébreux 11. Onésime avait besoin d'aide. C'est un jeune croyant qui vient de placer sa confiance en Jésus-Christ, qui veut vivre pour Jésus-Christ, qui veut vivre en homme libre, mais il restait une question à régler. Tu dois faire face à ton passé. Onésime, tu es présentement fugitif. Puis tu dois faire face à ton passé. Onésime dans une situation qui est difficile. Il y a un choix qui est dur à faire pour lui. Il est présentement, il s'est offert une liberté pour lui-même. S'est converti en prison. Mais maintenant, cette liberté qu'il s'est offerte lui-même dans sa propre perspective et avec ses mains, elle n'est pas en conformité avec ce que Dieu désire. Et regardez Hébreux 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse aurait pu être tenté, lui aussi, par l'esclavage. Il aurait pu être tenté, lui aussi, de dire, « OK, mon peuple est esclave. » Lui, Moïse, il vivait pas comme un esclave. Mais en quelque sorte, il fait partie, lui aussi, du peuple de Dieu. Puis il aurait pu dire, « Hey, je suis le fils de la fille du Pharaon. Je vis dans les richesses. J'ai tout ce que je veux. Puis moi, je vais m'en aller pendant... » Je ne sais pas s'il savait qu'il allait rester 40 ans dans le désert. Là. « Mais je vais m'en aller dans le désert. Je vais sacrifier ça pour aller dans le désert. » Oui. C'est ça qu'il a fait. Puis certainement qu'il a dû lutter avec la tentation, mais il avait les yeux fixés sur Christ. Il avait les yeux fixés sur ce que Dieu pouvait lui offrir dans une perspective éternelle plutôt qu'une perspective terrestre. Quand la tentation de la perspective terrestre est là, il faut relever les yeux vers la perspective éternelle. Onésime devait lui aussi avoir les yeux fixés sur la perspective éternelle. Que maintenant, il avait à affronter certains passés. La liberté en Christ n'est pas une liberté de négligence spirituelle. La liberté en Christ n'est pas la liberté de redevenir esclave du péché. C'est l'esclavage. La liberté en Christ nous sort du statu quo face au péché. La liberté en Christ engage certains sacrifices. Comme on vient de voir pour Moïse. Moïse a sacrifié ce qu'il avait en Égypte pour sortir. L'esclavage est tentant, mais Paul a été là pour aider Onésime. Regardez, revenez dans Philémon. Paul et Onésime ont commencé à tisser des liens ensemble. Et Paul aimait beaucoup Onésime. Et il voulait son bien. Même Paul aurait voulu le garder avec lui. Mais ça n'aurait pas été selon la volonté de Dieu. Même Paul aurait tiré avantage de dire, « Je te garde, j'envoie une lettre à Philémon puis je dis, « Just too bad. » Hein? Fini pour ton esclave, je le garde. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Paul lui a témoigné de l'amour. Paul lui a témoigné les enseignements du Seigneur Jésus. L'obéissance nécessaire. La lettre que l'on a est un témoignage que Paul voulait aider Onésime. Paul voulait encourager Onésime puis dire, je vais t'accompagner. Je peux pas t'accompagner en personne, mais je vais t'accompagner par une lettre. Je sais, Onésime, que les sacrifices sont durs pour toi. Je sais que peut-être l'esclavage à revenir à certains péchés puis garder ta vie en main peut être tentant. Ce que je te dis, c'est que tu dois retourner à Philémon. Mais je vais t'accompagner. Je veux t'aider. Puis je vais t'envoyer une lettre avec ça. Paul a voulu faciliter, aider, encourager Onésime. Regardez le verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, Paul dit ça à Philémon, reçois-le comme moi-même. Reçois Onésime comme si c'était moi, Philémon. Accueille-le. Et si tu as fait quelque chose, quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Paul est même prêt à payer pour Onésime. Mais Onésime, tu dois retourner. Tu dois y retourner, mais je vais t'accompagner. Et Paul dit à Philémon, « S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Et là, Paul il dit, verset 19, « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Philémon avait lui-même une dette envers Paul, qu'il devait sa propre vie envers Paul. Mais Paul est prêt à payer pour que Philémon accueille son esclave qui est transformé maintenant. L'esclavage peut être tentant. On ne doit pas succomber à cette tentation-là du confort que l'esclavage pouvait offrir. Parce que ce faible confort n'a rien à voir avec le fait que la liberté en Jésus-Christ est bonne. Ce faible confort n'a rien à voir. Vivre sous un nouveau régime avec Jésus-Christ nous emmène de faire des nouveaux choix. En tant qu'esclave en fuite, Onésime était un criminel. Et étant affranchi par Christ et esclave de Philémon, Onésime devait vivre en homme libre et revenir à son maître, Philémon. Mais certaines leçons sont dures à assimiler. Certaines leçons peuvent être difficiles. Ça peut être dur pour nos vies. Ça peut être dur pour nous aujourd'hui. Peut-être que vous dites, il me semble que je peux m'identifier à Onésime. Ça fait pas très longtemps que je suis converti, ou peut-être même un certain temps, mais il y a des choses que vous savez que Dieu vous demande de faire, puis c'est difficile. Vis en homme libre. Suis le chemin que le bon berger te montre. La liberté est bonne. Certainement que certains chemins vont être difficiles à prendre. Certainement que certains choix, de façon terrestre, vont te coûter cher. Mais Dieu t'abandonnera pas. Si tu es tenté par cette perspective terrestre, reviens à la perspective éternelle, à la vie éternelle, pour ne pas succomber à cette tentation-là. Et si on peut s'identifier à Paul en tant que croyant où on dit, nous aussi on peut aider. Oui, on peut certainement enseigner des fois ce que les Écritures confrontent dans nos vies comme péché. Mais on ne veut pas simplement être des frères qui vont confronter puis rentrer là où est le péché, mais d'accompagner aussi. Le même type que le témoignage de Paul a fait envers Onésime, qui a aimé ce frère-là puis a dit, je vais t'accompagner. Le choix est dur. Oui, ça va te coûter cher, mais je vais t'accompagner pour que tu y ailles. Un pas à la fois. Des fois, la marche semble haute, mais une chose à la fois. Puis on se doit que d'être des frères et des sœurs qui accompagnent, qui révèlent certainement la vérité des Écritures, mais qui accompagne notre prochain, y accéder de plus en plus. Ça, c'est l'amour de Christ, je crois. Regardez, reculez dans Colossiens, chapitre 4. Paul est avec Onésime en prison. Et Paul lui dit, Onésime, j'ai écrit une lettre pour t'accompagner. Je veux t'aider. Je suis même prêt à apprendre ce que t'as coûté à Philémon. Et là, Paul a écrit la lettre, comme on vient de lire, Philémon. Et Paul a écrit une deuxième lettre en même temps à l'église de Colosse, les Colossiens. C'est cette lettre qu'on vient d'ouvrir présentement. Et là, Paul a écrit aux Colossiens. C'est une lettre à un sens plus large. Si on se souvient de Philémon, Paul s'adressait à Philémon, à sa femme, fort probablement à l'ouvrier qui était là aussi, mais à l'Église qui est dans ta maison. Paul voulait que l'Église soit au courant de ce qui se passe avec Philémon puis son esclave. Et même dans l'Épître aux Colossiens, Paul va dire aux Colossiens au verset 7, « Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Je l'envoie avec quelqu'un. C'est qui? Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est maintenant des vôtres. Qui est maintenant des vôtres. Ils vous informeront tout ce qui se passe ici. On imagine Onésime qui revient avec Tichic et puis qui retourne pas à pas vers ses maîtres, qui cogne à la porte. Dès que la porte s'ouvre, j'ai une lettre de Paul! Regarde, prends le temps de lire ça avant, là. Hein? Et il y avait l'épître aux Colossiens aussi. Mais Paul l'a renvoyé avec Tichic puis avec ces deux lettres-là pour l'accompagner. Tombe un, la liberté est bonne. Tombe deux, l'esclavage peut être tentant. On ne doit pas y succomber. Tombe trois, ça va être facile à retenir celle-là. Go! Go! Vas-y! La liberté est bonne. Certains choix sont difficiles à prendre. Certains choix vont te coûter beaucoup. Certains choix vont te demander de sacrifier beaucoup. Mais si c'est ça que Dieu veut, go. Vas-y. Tantôt, tu faisais référence à des films. J'en ai un que je vais vous lancer comme ça. Il y a beaucoup de sang dedans. Là, je ne veux pas dire que c'est un bon film, mais oui, Cœur vaillant. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, le Cœur vaillant. Là, mais ça révèle l'histoire d'une épopée où il y avait un homme qui se battait pour la liberté de sa patrie. L'Écosse de mémoire, ça fait longtemps que j'ai écouté le film. Là. Et puis, avec Mel Gibson, et là, je vais vous dire le punch, si vous ne l'avez pas vu, mais trop tard, OK? C'est un vieux film de toute façon. Mais le gars, à la fin, il a été pris parce qu'il est considéré comme un rebelle. Mais le gars, il a vécu toute sa vie pour la liberté. Vivre la liberté, puis il est prêt à rien sacrifier pour échapper à la liberté. Et là, il a été capturé. Et puis là, il a la tête sur le bûcher, puis il est sur le point de se faire couper la tête. Là, j'ai fermé la TV juste là. Mais juste avant qu'il meure, juste avant qu'il se fasse couper la tête, il crie une dernière chose. Je le crierai pas là, comme il l'a fait, là, mais il crie « Liberté ». C'est un peu ironique de penser qu'un homme peut mourir en criant « Liberté ». Il est en train de perdre sa vie. Est-ce que c'est ça, la liberté? Mais ce gars-là, il avait des aspirations pour sa nation, pour sa patrie. Il voulait que sa patrie vive la liberté. Il était même prêt à perdre sa vie pour son peuple. Mais à combien plus forte raison, si on est concitoyen des cieux, qu'on n'a pas envie de vivre cette liberté-là pour notre propre vie, pour notre Église, pour notre entourage? La liberté. Mais la liberté va vous coûter des fois. Comme cet homme-là qui a perdu sa vie, je vous souhaite pas de perdre votre vie pour la liberté, mais ça se peut que vous ayez à un moment donné à dire « Go !» Puis il faut vous affronter certaines difficultés. Comme Onésime, le matin qu'il s'est levé, puis qu'il a fait le premier pas dans la direction, en direction de chez ses maîtres, il s'est levé ce matin-là, puis s'est dit « Go !» Il a fallu qu'il y aille. Puis il est allé, puis s'est rendu jusqu'à la porte de ce qu'on connaît de l'histoire. Le confort de notre esclavage ne vaut jamais la liberté. Le confort de la mine des prisonniers ne vaudra jamais la liberté qu'ils vont trouver une fois sur la terre. Il n'y en aura pas un qui va dire, il me semble que je retournerais dans le fond de mon trou avec mon petit MP3, mon jeu de cartes. Il n'y a pas personne. Mais à un moment donné, quelqu'un va sortir du trou, ils vont dire, go, on sort d'ici. C'est fini, là. On ne veut plus y revenir. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'Onésime quand Paul lui dit l'évidence qu'il doit revenir. De vivre en homme libre. Onésime a dû vivre ça. Peut-être qu'il s'est dit, il va me tuer. Il va me mettre aux travaux lourds. Il va me faire fracasser du roc à journée longue. Je vais me déplacer des roches. Il va m'envoyer au trou. Puis ça l'aurait peut-être été juste. Onésime était un fugitif, illégal selon la loi. Mais il devait revenir. Et peut-être que Philémon aurait pu dire, « Non, Paul, je ne mets pas sur ton compte, puis je garde ça sur le compte d'Onésime. » Mais il fallait qu'Onésime soit quand même prêt à cette éventualité-là, puis se dire, « Go! » David a eu l'occasion, lui aussi, à un moment donné, quand il était pourchassé par Saül. Puis Saül voulait le tuer, parce qu'il ne l'aimait pas. David, dans une perspective terrestre, aurait pu dire, à deux reprises, Saül, fini, coupe la tête. À un moment donné, Saül est rentré d'une grotte où David était caché, puis David aurait pu le tuer. À un moment donné, Dieu avait fait tomber le camp de Saül dans le sommeil profond, et David a pu se rendre jusqu'à côté de Saül, puis de prendre sa lance, puis il aurait pu le planter là. Il l'a pas fait, parce que sa perspective de Dieu influençait ses choix sur la terre. Il disait non, c'est loin de l'Éternel. C'est celui que Dieu a choisi pour l'instant. David était prêt à vivre selon ce que Dieu voulait de lui. Il n'a pas aidé les circonstances à sa propre main. On pourrait citer Abraham. De bon matin, quand Dieu lui a dit, « Abraham, prends ton enfant, puis va le sacrifier. » De bon matin, il est parti. Il s'est rendu jusqu'à la montagne où ce que Dieu voulait, qu'il avait demandé de sacrifier. Et au moment qu'il a levé le couteau pour sacrifier, Dieu l'a arrêté. Abraham, il était prêt. De bon matin, il s'est dit, « Go! » Dieu me demande de faire ça, je vais le faire. Abraham voulait vivre en homme libre. Abraham voulait vivre ce que Dieu lui demandait. Jésus lui-même, qui est en train de subir un procès injuste. Les gens mentaient sur Jésus, inventaient des faux témoignages. Il y avait un procès qui était partial contre Jésus. Mais lui-même s'en remettait à son propre père, disant, « C'est mon père qui va s'occuper de vous, éventuellement. » Ce que Pierre nous raconte. Je pourrais vous citer aussi, on va arrêter là pour l'instant, mais je pourrais vous citer aussi les apôtres, au temps où ce que eux aussi ont commencé à raconter l'histoire de Jésus, qui était venu pour sauver l'humanité, qui était mort et ressuscité pour les péchés des hommes. Puis très tôt, les apôtres se sont fait dire, pas de cet enseignement-là ici. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Go! Ils sont allés quand même. Parce que c'est ça que Dieu leur avait confié comme mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils sont allés. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui avaient dit non, non, non? Ils les ont pris, ils auront secoué un petit peu le collet, recommencez pas. Ils sont repartis, puis ils ont continué. Ils les ont repris, puis là, ils ont secoué un petit peu plus que le collet. Ils les ont même battus. Est-ce qu'on vous avait pas déjà interdit de pas enseigner en ce nom-là? Savez-vous c'était quoi la réponse des apôtres? Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le verset suivant, heureux d'avoir été jugés dignes, d'avoir souffert pour Christ, ils sont partis et à tous les jours dans le temple, ils enseignaient la résurrection de Jésus-Christ avec l'évangile que Jésus est venu apporter pour tous les hommes. À combien plus forte raison pour chacune de nos vies qu'on a à vivre en homme libre, que certaines choses qu'on a à mettre en règle avec Dieu, qu'il faut faire un premier pas. Il faut dire, Dieu, certainement je veux obéir à ce que tu me demandes. Je vous le dis en vérité que Jésus disait, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle tout ce qu'il a sans recevoir par la suite au centuple. Tant dans le présent que dans le futur aussi. Aie la foi que si tu fais ce que Dieu te demande, Dieu va t'accompagner. Le tome 3 est facile à retenir. Difficile à appliquer. Mais aie la foi que Dieu va t'accompagner. S'il y a quelque chose à mettre en règle dans ta vie, puis c'est ce que Dieu te demande, puis tu le fais, fais-lui confiance que Dieu va t'accompagner. Qu'il ne te laissera pas tomber en route. Aie la foi que ce que tu sacrifies pour garder ta liberté en Christ, tu vas le retrouver aussi d'une autre façon. Si c'est pour moi, je t'occupe. Aie la foi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Philémon avait perdu son esclave. Revenez avec moi dans Philémon, on va terminer avec deux versets. Philémon avait perdu son esclave. Philémon avait probablement perdu de l'argent que Onésime lui rapportait. Philémon s'était même fait voler par cet esclave-là, Onésime. Mais regardez le verset 15. Paul veut lui rappeler une vérité importante. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Philémon t'a perdu beaucoup, mais peut-être que c'était nécessaire pour que tu le retrouves pour l'éternité. Regardez le verset 16. Oui, Philémon, t'as peut-être perdu beaucoup, mais c'était peut-être pour le retrouver pour l'éternité. Et non plus comme un esclave, pas que tu le retrouves comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Philémon, t'as perdu beaucoup. mais tu as retrouvé un frère. Tu ne retrouves pas un esclave, tu retrouves un frère bien-aimé. Quand on fait les choix que Dieu veut qu'on fasse, Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu ne te laissera pas tomber. Go! Seigneur, on vient devant toi pour te louer pour ta parole qui est vivante. Comme une épée à deux tranchants, Seigneur, elle vient faire la part des choses dans nos pensées, dans nos désirs, Seigneur, certainement qui nous portent souvent à être tentés par un ancien esclavage qu'on avait face au péché, qui vient trancher aussi avec ta volonté. Dieu, on suivait notre propre voie jusqu'au moment où on s'est repenti de nos péchés, où on a placé notre foi en toi. À ce moment-là, tu es devenu notre berger. Dieu, on veut continuer de laisser nos vies entre tes mains. C'est toi qui nous indiques le sentier, le chemin que l'on doit prendre. Tu nous demandes de te suivre, Seigneur, coûte que coûte. Tu nous demandes d'y aller, là où tu nous demandes de faire les choses qui sont selon ta volonté. C'est ce qu'on veut s'engager à faire. Seigneur, chacun d'entre nous, là où tu as mis le doigt dans nos vies, où que tu sais qu'on a des choses à mettre en règle avec toi, on veut prendre cet engagement-là ce matin, de suivre le chemin que tu veux que l'on prenne. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis, et on veut vivre en homme libre et pas en esclave. Et on sait que tu nous accompagnes, Seigneur, et on veut te louer pour ça. On veut te glorifier, te rendre grâce pour ta présence dans nos vies. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.